Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Une émission préparée par Mélanie Chalandon, Mathilde Barbier, Fanny Richet, Nicolas Ignatieff. Réalisée par David Jacuboviez, à la prise de son Clément Daté. Combien de minutes supplémentaires aurions-nous attendu avant d'apprendre la démission de Benoît XVI si Giovanna Chieri n'avait pas maîtrisé les déclinaisons latines? Le 11 mars 2013, la journaliste de l'agence de presse italienne ANSA avait été la seule à comprendre les propos de l'ancien pape prononcés en latin dans lesquels il faisait état de sa renonciation. Vires meas ingravescente aetate non iam aptas esse admunus petrinum aeque administrandum. Aurait-il besoin de le confesser? Je n'ai jamais fait de latin. À l'époque, au collège, son enseignement était déjà optionnel. Nous éprouvions de la compassion pour celles et ceux qui n'avaient pas pu y échapper. Les temps ont-ils vraiment changé? Ils ne sont que 20% aujourd'hui à se saisir du latin en classe de 5e et les trois quarts ont quitté le navire lorsqu'ils arrivent en terminale. Quant au grec ancien, seuls 2,2% des élèves de 3e le choisissent en option. Alors comment endiguer cette érosion? Eh bien, Eureka, la ministre de l'Éducation nationale a fait de l'enseignement du grec et du latin un des axes de sa réforme du collège. Fini les options, place à une initiation pour tous dans le cadre des cours de français et à un module interdisciplinaire, langues et cultures de l'Antiquité. L'objectif affiché, c'est une démocratisation de l'accès à ces langues, mais le projet suscite de nombreuses oppositions. Nous refusons que le latin et le grec ancien deviennent un vague complément culturel. S'insurge notamment une pétition qui ne devrait plus tarder à dépasser les 40 000 signatures. Alors, réforme du collège, à quoi servent les langues mortes? C'est notre sujet du jour. Et quatre invités pour en discuter ce soir. François Martin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes enseignant en français, latin et grec dans un collège d'éducation prioritaire en Seine-Saint-Denis. Vous êtes par ailleurs vice-président de la Coordination nationale des associations régionales des enseignants de langues anciennes, la CNARELA, qui est une des organisatrices, disons, de cette pétition que j'évoquais, dont on peut retrouver le lien sur notre site franceculture.fr, sur la page du Grain à Moudre. Pour discuter avec vous ce soir, Florence Castinco, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de lettres classiques, vous aussi, dans un collège d'éducation prioritaire dans le département de l'Oise. Vous êtes membre du CRAP, qui est le Cercle de Recherche et d'Action pédagogique. Vous dirigez la publication des cahiers pédagogiques, qui sont plutôt favorables à cette réforme. Troisième invité, Pascal Angèle, bonsoir.
Bonsoir.
Philosophe, directeur d'études à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez signé une tribune le mois dernier dans Libération intitulée « Pour en finir avec le latin et le grec ». Tribune dans laquelle vous applaudissez dès demain cette réforme. Mais je précise qu'il faut lire votre tribune au moins au deuxième degré, si ce n'est au troisième.
Troisième.
Et puis, troisième degré. Notre quatrième invité, c'est Philippe Sibois. Bonsoir.
Bonsoir.
Sociologue, professeur émérite à l'université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. On vous doit aux éditions des classiques des sciences sociales en 2011 l'enseignement du latin en France, une socio-histoire. Et vous plaider pour un compromis entre les différentes tendances qui s'opposent sur cette réforme du collège, en particulier sur les langues anciennes. Vous dites qu'il faudrait qu'il y ait des éléments linguistiques et culturels pour tous au collège, une spécialité littéraire de haut niveau au lycée. J'imagine qu'on aura l'occasion d'en discuter d'ici la fin de cette émission. Mais je voudrais quand même justement commencer par vous, Philippe Sibois. Je parle de langues anciennes, de langues mortes. On a peut-être abusivement dans notre titre, mais on l'a fait un petit peu exprès, classé le latin et le grec ancien dans la catégorie des langues mortes.
Oui, actuellement, on appelle ça langue et culture de l'Antiquité, LCA pour les intimes. Ça correspond mieux à ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire il y a une partie linguistique, on apprend à traduire, mais il y a aussi toute une initiation à la culture de l'Antiquité qui se termine souvent par un voyage à Pompéi ou sur le Colisée. Il y a beaucoup d'autres choses que simplement... Ou de l'archéologie. Il y a beaucoup d'autres choses que... Et c'est pas mort du tout.
Alors, la catégorie langue morte, c'est une catégorie qu'on pourrait qualifier de scientifique, mais il y a aussi peut-être une dimension péjorative lorsqu'on l'attribue et au latin et au grec ancien. Est-ce que, en tout cas, Florence Castinco, dans l'exercice de votre métier, c'est une remarque qui revient régulièrement, c'est-à-dire, en gros, ces langues-là, de toute manière, elles ne sont plus du tout parler, elles sont mortes, elles ne servent à rien.
Alors c'est vrai que les élèves nous font souvent cette remarque que ce sont des langues qui effectivement ne sont parlées dans aucun pays, on ne peut pas faire un voyage linguistique. Néanmoins, il faut dire que l'enseignement du latin et du grec a connu un renouveau extraordinaire ces dernières années. Je trouve qu'il est d'une extrême vitalité. Il y a des sites internet qui existent, qui sont d'une richesse incroyable. Les enseignants de lettres classiques et de langues et cultures de l'Antiquité ont une générosité de partage que j'admire beaucoup. Moi, je puise dans beaucoup de sites qui sont faits par mes collègues. Et donc, c'est pas du tout un enseignement sclérosé, au contraire. Je crois qu'elle s'est énormément renouvelée depuis que moi, j'ai été petite. Et que cette vitalité est particulièrement appréciée par les élèves parce que, justement, elle leur permet de vivre des moments de découverte et de revenir sur leur idée que le latin serait effectivement cette langue poussiéreuse. Cela dit, tous les élèves ne choisissent pas le latin et le grec. Et à l'intérieur des élèves qui ont choisi l'option, il y en a bien certains qui l'ont choisi parce que leurs parents les ont poussés et qui traînent un petit peu le pied au long des 3 années de collège.
François Martin, vous qui enseignez également le latin et le grec, est-ce que vous partagez le diagnostic de Florence Castinco ?
Alors oui, elle a vraiment raison de dire que je crois que, comme aucune autre discipline, les langues anciennes, le latin et le grec, qu'on nomme LCA aujourd'hui, se sont remises en question vraiment. Ce qui est important de souligner aujourd'hui encore plus avec les déclarations scandaleuses de la ministre qui fait preuve d'une ignorance crasse, je trouve, quand elle déclare sur Europe 1, au lieu de ne faire que des déclinaisons du latin à proprement parler, on va faire de la civilisation antique. Elle qui dit que des pseudo-intellectuels feraient bien de relire les textes, je l'invite à lire les programmes actuels qui ont 3 entrées en latin, histoire et vie de la cité, vie publique, vie privée et représentation du monde.
Donc vous vous dites tout de suite finalement ce que la ministre propose pour avoir une approche un petit peu différente de cet enseignement, ça existe déjà dans les faits. Bon ben c'est pas très gênant finalement si la réforme elle acte ce qui existe déjà.
Le souci c'est qu'on les fait passer pour des langues mortes et le vrai problème c'est qu'on recloisonne. On est depuis très longtemps dans le décloisonnement et là, on cloisonne complètement puisque d'un côté, on va avoir un EPI avec un vernis de civilisation et de l'autre côté, on va avoir un enseignement de complément avec de la langue. Pourquoi décloisonner comme ça alors qu'on sait que le décloisonnement ne fonctionne pas ? D'ailleurs, la ministre l'a elle-même dit ce matin sur France Inter, décloisonner les disciplines aide les élèves à s'approprier autrement les connaissances.
Et elle le redira sans doute demain matin sur France Culture puisqu'elle sera l'invitée de Marc Voinchet à partir de 8h20. Je poursuis mon tour de table. Pascal Angèle, sur l'image que l'on peut avoir par rapport à ces langues anciennes, alors avec beaucoup d'humour, hein, je le dis dans votre tribune de Libé, vous écrivez notamment ceci, le latin et le grec empêchent les collégiens d'accéder aux matières utiles à la vie comme la conduite automobile, l'éducation civique et sexuelle. Qui sur Facebook et Twitter parle latin ? Il n'y a même pas de mot pour désigner Internet en latin.
J'ai préféré utiliser une formule ironique pour fustiger ce type d'idée que l'on entend régulièrement, selon laquelle le latin serait premièrement élitiste, empêcherait la démocratisation, alors qu'il y a énormément d'enfants qui sont pas spécialement appartenant à des classes favorisées qui souhaitent faire du latin. D'autre part, je voudrais dire quelque chose à propos de langue morte, de langue vivante. Certainement, le latin est une langue morte, le grec est une langue morte.
Bon, c'est encore la langue officielle du Vatican, enfin une des langues officielles du Vatican.
Mais ça dépend ce que vous entendez par... Bon, évidemment, si morte signifie qu'on ne la parle pas, mais en même temps, il faut quand même bien voir que le latin et le grec sont aussi des langues qui forment le socle de toute une culture. Alors si on sépare cette culture, comme semble le suggérer la réforme, l'apprentissage de la langue elle-même, on fait une grosse bêtise, puisque presque tout le monde est d'accord sur le fait qu'une culture est très difficilement séparable de sa langue, et on peut très bien avoir un accès à cette culture, mais sans nécessairement parler le latin de manière courante, comme les gens qui, en Finlande, ont une radio qui émet en latin et qui donne des résultats de match en latin. Alors, donc, si vous voulez, la question de mort vivant est une question secondaire. Il peut y avoir des langues qui sont mortes, mais qui néanmoins ont une grande importance. L'espéranto aurait très bien pu devenir une langue vivante, mais finalement, elle ne l'est pas devenue.
Alors, ce qui me surprend peut-être depuis le début de cette discussion, encore que en tant que professeur de lettres classiques, je comprends que vous soyez amené à défendre votre discipline, mais c'est que Manifestement, le diagnostic que vous faites sur la vitalité de l'enseignement que vous professez n'est pas exactement celui du ministère de l'Éducation nationale, auquel cas il n'y aurait sans doute pas eu de réforme. Je redonne quand même juste alors les quelques éléments chiffrés que je donnais au début de l'émission. 20% des élèves qui choisissent le latin en cinquième, bon, finalement, c'est pas si mal, 1 sur 5, mais en terminale, ils sont moins de 5% à garder cette option. Et alors, le grec en troisième, je disais 2,2%. Est-ce qu'on ne peut pas parler quand même, Philippe Sibois, d'un enseignement qui, alors peut-être pas qui périclite, mais enfin qui est en perte de vitesse?
Alors c'est difficile à dire, hein, parce qu'en 95, c'était 23% qui faisait du latin, maintenant c'est 20%. Alors est-ce qu'une baisse de 3%, c'est un enseignement qui périclite? Non, ça c'est sûr. Et ce qui est frappant, c'est que au lycée, il y a une permanence 6% à peu près depuis 7-8 ans, et ça bouge pas. Ça a tendance même un petit peu à monter. Ça veut dire que les élèves qui sont bien accrochés, ils restent. Alors évidemment, il y a une chute entre le collège et le lycée. Alors cette chute-là, comment l'interpréter? Bon, faut pas avoir peur de le dire. C'est dur de faire apprendre à traduire un adolescent, parce qu'il voit pas tellement à quoi ça peut lui servir. Et de ce fait-là, il a beaucoup de mal à intégrer le système des cas du latin. Comme disent les profs, il faut le réapprendre à chaque année.
Est-ce que la baisse, elle n'est pas également liée, Philippe Sibois, au fait qu'au collège, on se sert encore de ces options là pour être dans des classes de niveau, c'est-à-dire de meilleur niveau, et que c'est moins utile au lycée?
Alors là, je crois qu'il faut regarder un petit peu les chiffres. Moi, comme sociologue, j'ai essayé de faire un peu une enquête et je me suis rendu compte qu'il faudrait dire à peu près c'est moitié-moitié. C'est-à-dire moitié qui sont de classes très favorisées ou favorisées, moitié qui sont de classes moyennes ou très défavorisées. Et c'est des chiffres de l'Éducation nationale. Et ça, alors, ça veut dire que il y en a la moitié qui ne viennent pas pour être à la suite de Bourdieu, hein, pour la distinction. En plus de ça, ceux qui viennent pour la distinction, ils vont plutôt ailleurs. Hein.
Bah, cela dit, on peut être d'un milieu modeste et avoir envie justement de se distinguer.
C'est une très bonne idée. Hein.
Florence Castinco, ensuite François Martin.
Oui, je crois que l'idée que le latin soit choisi par certains pour être dans des classes protégées a vécu dans beaucoup d'établissements. C'est-à-dire que beaucoup d'établissements font le choix de mélanger les élèves qui font l'option latin à d'autres qui ne le font pas, de ne pas en faire justement un système de classes protégées. Je pense que dans votre collège, comme dans le mien, c'est le cas. On a vraiment à cœur à ce que ce ne soit pas des parcours sécurisés, comme on pourrait dire, qui bénéficient forcément toujours aux mêmes élèves. La question du latin elle-même, en revanche, elle doit être placée dans cette question de la réforme du collège voulue par la ministre. Et je suis un peu étonnée que depuis que cette réforme a été mise en œuvre, ou en tout cas soit actée par le gouvernement, on s'imagine que cette réforme est une attaque alors contre l'allemand d'un côté, contre le latin de l'autre, et que ça devienne une levée de bouclier. Comment on s'attaque au latin, au grec et à l'allemand? On ne s'attaque pas au latin, au grec et à l'allemand. On propose une réforme du collège, on met en œuvre une réforme du collège qui nous semble, au cahier pédagogique et à d'autres mouvements pédagogiques, comme Éducation et Devenir, comme d'autres encore, comme des syndicats d'enseignants, qui nous semble effectivement une très bonne proposition. Pas parfaite, effectivement, mais enfin une proposition pour le collège. Et je ne connais pas de détracteurs de cette réforme qui puissent dire « Ah ben si, nous, tiens, on a une autre réforme qui également lutterait pour la démocratisation de l'enseignement au collège. » Je rappelle juste que le diagnostic, c'est un accroissement des inégalités au collège par rapport aux inégalités sociales à l'entrée au collège et à l'école. Et que même autant de bonne volonté que nous soyons tous, nous n'arrivons pas à corriger ces inégalités. Donc là, il y a une proposition pour faire autrement. Et nous trouvons qu'il faut vraiment s'en saisir ardemment.
Ah ben, peut-être que François Martin et Pascal Angèle, qui s'opposent à cette réforme, enfin, s'agissant en tout cas du latin et du grec ancien, vont vous répondre qu'il n'y a pas besoin de proposer une nouvelle réforme parce que la situation actuelle est satisfaisante. François Martin.
Alors, je crois qu'il n'y a pas un enseignant aujourd'hui qui va dire qu'il ne faut pas de réforme. Et nous sommes les premiers à reconnaître qu'il faut une réforme, mais sûrement pas cette réforme. Alors, si vous le
qu'est-ce
permettez,
qu'il faudrait changer,
je vais revenir sur
l'enseignement du latin.
Trois choses.
Et du...
Sur le socle dont parlait Pascal Angèle. Hein, sur le socle commun, hein, puisque c'est de là que part. La réforme. Sur le domaine 1 qui s'appelle langage pour penser et communiquer, jamais, à aucun instant, on a une référence au latin et au grec. C'est un vrai problème. Ensuite, sur le lycée, c'est l'argument qui est avancé en ce moment, 5% seulement des élèves. Eh bien, vous devez connaître, madame, puisque vous êtes dans un établissement ZEP comme moi, vous avez sans doute des élèves qui ont un lycée pro après. Or, on ne leur propose pas les langues anciennes. Donc, c'est évident qu'il y a une partie des élèves qui étudient le latin et le grec au collège, qui se destinent après au lycée pro, et c'est dans la fonte des effectifs. Il faut le dire, ça aussi. Des élèves qui ont connu des horaires de 17h à 18h ou le midi, ils n'ont peut-être pas envie de continuer au lycée non plus. Ensuite, je voudrais revenir sur ce que disait Madame Kesninko. C'est faux de dire qu'il n'y a pas d'attaque. Et d'ailleurs, je vais revenir sur l'article que vous avez écrit sur les cahiers pédagogiques.
Pas trop longuement, pour que tout le monde puisse bien s'exprimer.
Vraiment, qui est scandaleux. Et puis, avec une erreur au début, vous dites qu'il y a 5 heures au sens strict, de la 6e à la 3e. Non, c'est de la 5e à la 3e. Donc, pour l'enseignement de complément, vous parlez d'une perte contrebalancée par des EPI fléchés langues anciennes. C'est langues et cultures de l'Antiquité. Et en plus, ces EPI, il y a 8 thématiques, dont 6 imposées. Qui nous dit que nous aurons les thématiques, la thématique langues et cultures de l'Antiquité ? C'est un vrai souci. Pourtant,
juste François-Martin, parce que comme vous êtes 4, il faut vraiment que la discussion puisse se tenir. Oui. En tout cas, ce que vous dites, vous, c'est que cette réforme, elle va conduire à une moindre présence de l'enseignement du latin et du grec ancien et au collège et au lycée, c'est ça ?
C'est évident, puisque dans le pays, on n'est pas sûr de l'avoir. Et l'enseignement de complément, on est quasiment sûr de ne pas l'avoir. Il n'est pas financé. Les 2h75 vont être attribués au dédoublement des classes. Et nous sommes pour le dédoublement des classes, mais on ne pourra pas faire de latin et encore moins de grec. Et c'est dommage parce que vous dites, madame, dans votre article, quelque chose d'intéressant. Le collège unique, je cite, et son option latin ouverte à tous me semble avoir été un immense progrès. Et la CNARELA s'est toujours battue pour ce progrès, hein, quand Jeannette Boulet était présidente à l'époque de la réforme Bayrou et qu'on a ouvert le latin en 5e. Eh bien, ça a été une vraie réussite pour les élèves.
Alors, puisque vous interpellez Florence Kesninko, je vous laisse répondre. Ensuite, Pascal Angel.
Il se trouve que la réforme du collège propose un volant-d'heure inédit jusque-là qui est à disposition des établissements. Et que donc, il va s'agir que les établissements s'emparent de ce volant-d'heure, bien plus important que ce qu'il était jusque-là, pour effectivement faire des choix. Je ne vois pas pourquoi, dans un établissement, il n'y aurait pas consensus, et dans le mien, ce sera le cas, je le sais, pour qu'il y ait cet enseignement du latin, je parle de grec qui est vraiment extrêmement minoritaire maintenant, c'est vrai, cet enseignement du latin qui est par exemple défendu par mon excellente jeune collègue d'EPS qui défend le latin à tout coup et qui fera partie des gens qui le plaideront pour qu'il existe. Mais aussi
avec
par mon
qui
principal.
Vous pourrez faire de l'enseignement interdisciplinaire.
Voilà, c'est ça. En tout cas, je ne vois pas pourquoi. Voilà. Et d'autre part.
Vous allez faire quoi, par exemple, je ne sais pas, juste courir le marathon, par exemple, avec votre prof
d'EPS. Ce n'est pas encore décidé, nous devons discuter.
Pascal Angèle, alors juste avant de vous laisser la parole, Pascal Angèle, je redis juste quand même en deux mots, hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi les détails de cette réforme s'agissant des langues anciennes. Donc, il y a deux façons qu'avait été prévues dans la réforme initiale pour changer la méthode d'enseignement. Une initiation donc aux langues anciennes dans le cadre des cours de français. 3 heures hebdomadaires d'enseignement pratique interdisciplinaire, sachant qu'il y a 8 thématiques au global et que 6 seulement pourront être choisies. Donc, ce qui fait dire que ça ne sera pas forcément la thématique langues et cultures de l'Antiquité qui sera choisie dans les établissements. Et puis, il y a eu un troisième volet qui est arrivé un peu plus tardivement fin mars, un enseignement de complément en langues anciennes avec 1 heure possible en 5e, 2 heures en 4e et en 3e, à la discrétion des établissements, sachant que ça n'est pas prévu pour l'instant dans la grille horaire des collèges. Alors, je vous laisse maintenant la parole, Pascal Angèle.
Oui, merci. En ce qui concerne la réforme et sa nécessité, bon, je dois dire que je crois que ça me paraît être un petit peu enfumé le débat que de se demander si on est pour ou contre la réforme. Le problème, c'est est-ce que on veut maintenir à l'intérieur de ces classes un enseignement de latin, éventuellement de grec. Je ferai la proposition provocante que il faut au contraire l'augmenter pour des raisons qui tiennent pas simplement au fait qu'il faut essayer d'endiguer des enseignements qui seront vraisemblablement des sortes de latin light, du genre allons visiter le Colisée, allons visiter Pompéi. On peut le faire effectivement, comme vous le disiez, dans un voyage scolaire, mais simplement parce que, comme l'ont dit énormément de gens depuis le début où on discute cette affaire du latin, et ça date du 19e siècle et encore même avant, il y a dans le latin l'apprentissage, comme je le disais tout à l'heure, non seulement d'une culture, mais également d'une certaine structure de la pensée. J'aurais cité juste un passage de Julien Binda qui racontait ses aventures de lycée. Il s'agit de quelque chose qui est à la fin du 19e siècle. Il dit qu'il adorait le latin. Tout m'y plaisait, les désinences casuelles, l'ablatif absolu, la proposition infinitive, les gérondifs, voire l'inversion du complément mis en avant le verbe qui, si elle choquait les mœurs de ma langue, produisait des effets que je goûtais fortement. Il me souvient avec quel culte en 6e, je me répétais plusieurs jours cette phrase de Salluste cueillie dans une version « O urbem venalem et mature perituram si emptorem inuenerit ». La musicalité de ces derniers mots m'enchantait. Je me chargeais de soutenir que la logique de la pensée n'est aucunement rompue par l'inversion. Il y a dans le latin, tout comme dans d'autres, évidemment d'autres langues, un apprentissage de la structure logique de la pensée qui est liée avec des rapports très complexes à celui du français. Donc c'est dans ce cadre-là que il me semble qu'il faut penser ce genre de réforme, pas simplement dans le fait d'échanger des heures ici ou là. Mais évidemment, je comprends bien que mes collègues qui enseignent ces matières ont besoin de simplement déjà endiguer l'inondation.
Philippe Sibois. Moi, je vois quelque chose de très positif dans ce que propose la ministre, dans ce qu'on appelle les éléments culturels et linguistiques des langues anciennes qui doivent être enseignés à tout le monde. Sauf que c'est très difficile. Hein.
Oui, parce que c'est quand même ce qui change. C'est-à-dire qu'au lieu d'être des matières, alors des disciplines à part entière, mais optionnelles, là, c'est intégré dans des cours. Mais enfin, on est sûr que tous les collégiens auront, en tout cas, une approche.
Thématique. Alors, voilà. Je prends un exemple.
Il y aura une approche pour tout le monde. Quoi.
Je prends un exemple. En récréation, tous les élèves arrivent ex aequo. Bon, ex aequo, c'est du latin. Personne ne leur apprend ce que c'est, d'où ça vient, etc. Personne ne leur apprend du samedi. Il y a des tas d'expressions qui sont dans la langue française et ils vont arriver in extremis, évidemment. Enfin, on pourrait enchaîner, hein, c'est un petit jeu facile. Mais il y a des tas d'expressions qui sont connues des élèves et on ne leur explique jamais le système de ces cas. Eh bien, il me semble que dans les éléments culturels et linguistiques, eh bien, il y a la place pour les faire comprendre à tous les élèves. Mais ça, c'est un progrès.
Mais Philippe Sibois, il n'y aurait pas la place pour les deux systèmes, c'est-à-dire à la fois une initiation alors à la culture, disons, de l'Antiquité qui permet de comprendre ça, et tout en maintenant des options spécifiques qui permettent à ceux qui veulent aller plus loin, eh ben, d'aller plus loin, justement. Oui, alors ça dépend peut-être du volume horaire disponible.
Mais attendez, les options spécifiques au lycée, c'est quand même un reliquat du 19e siècle, hein, où tout le monde faisait du latin, et puis on a, depuis 1902, il y en a la moitié classique et moderne qui font du latin, et puis depuis 1968, il n'y en a plus qu'en quatrième, puis après Bérou en cinquième. Mais ce reliquat qui avait du sens à une époque, où apprendre à traduire, ça durait tout le temps de la scolarité, où on faisait... Moi, j'ai fait du latin tous les jours, pratiquement, dans ma scolarité.
Et vous en gardez un bon souvenir ?
Très mauvais. Mais sauf qu'on avait de la sixième à la première pour apprendre à traduire. Maintenant, le programme est resté le même alors qu'on veut le faire au collège. C'est un objectif qui n'est pas atteignable.
Bon, l'objectif de la réforme, quand même, François Martin, c'est de se dire on va faire un apprentissage progressif. C'est-à-dire d'abord une initiation à la culture et aussi à la linguistique, mais qui permet peut-être de ne pas dégoûter tout de suite un certain nombre d'élèves. Et ensuite, ceux qui auront vraiment envie de poursuivre pourront poursuivre sur un apprentissage un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus musclé. Mais c'est quand même pas si mal, ça, non ?
Il faut arrêter de croire qu'on les dégoûte. Déjà, il y a des profs qui doivent se remettre en question. Et en lettres classiques, on le fait quand même très régulièrement. Et moi, je reviens quand même sur ce que vous dites. Vous ne connaissez rien aux établissements d'aujourd'hui. Quand vous parlez d'etc., que les élèves écrivent mal, vous le savez bien, Florence Castinco. On est les premiers, surtout les profs de lettres classiques, à leur expliquer. Donc, l'exemple est vraiment mal choisi.
Et les professeurs de lettres modernes,
en plus, attendez. Les éléments culturels et linguistiques, c'est bien gentil, mais vous avez lu les programmes du CSP, il n'y a rien. On a de l'étymologie en sixième et des préfixes en cinquième. Ça existe déjà dans les programmes. Donc, qu'on ne vienne pas nous dire que le latin et le grec vont prendre une part là-dedans. C'est pas vrai. En plus, je vais revenir à ce que vous disiez, madame, sur l'immobilisme. Nous ne faisons pas partie de l'immobilisme. Avec les associations littéraires, Sauvegarde des enseignements littéraires, Sauver les lettres, l'APLES, les profs du supérieur, les profs de prépa avec l'APFLA CPL, et aussi l'association des profs de lettres. Le 31 mars, quand nous avons été reçus au ministère, nous avons fait des propositions. Nous avons fait des propositions en particulier pour le français. La seule réponse de la ministre, ça a été de supprimer une demi-heure de français le lendemain en 6e. Et le scandale, il est là. Aujourd'hui, à la rentrée 2016 en 6e, il y aura une demi-heure de français en moins, comme en 3e. Alors qu'on dit que ce sont les classes charnières. Il faut arrêter de se moquer du monde.
Alors, par rapport, vous disiez, il y a des profs qui doivent peut-être se remettre en question. Ben, c'est justement le cas de Florence Castinco, puisque je vous ai lu dans les cahiers pédagogiques, où vous écrivez ceci. Alors, c'est un extrait, hein, évidemment. Hein. « Je salue la prouesse de ceux qui disent faire réussir tous leurs élèves en grammaire latine. Moi, j'ai des élèves qui, au bout de plusieurs mois de travail en cinquième, se trouvent toujours en difficulté sur les déclinaisons. J'en prends ma part de responsabilité, mais le fait est là. »
Oui, alors ce que j'écrivais dans ce texte, c'était pour expliquer qu'effectivement, le latin pour tous, et ça fait partie, je crois, des débats parmi les enseignants de langues anciennes, le latin pour tous, c'est-à-dire ouvert à tous, et dans mon collège, tout élève qui, en sixième, demande à entrer dans à faire l'option latin en cinquième, eh ben, je l'accepte, bien entendu, comme nous le faisons presque tous, je pense.
Vous avez de la chance.
Quoique pas tous, parce qu'il y a des collèges où, effectivement, certains enseignants font barrage en disant « Ah non, il n'est pas très bon », avec quelquefois des motivations intéressantes, c'est-à-dire on ne va pas le charger encore de quelque chose. Bon, moi, je fais le pari qu'un élève qui a envie d'essayer d'après ce qu'il a entendu des autres, d'après ce que la présentation que j'ai faite dans sa classe, s'il a envie de commencer l'option latin en cinquième, il peut la commencer, quitte à l'arrêter au bout de chaque année, car la loi permet d'arrêter une option supplémentaire à tout moment. Et donc, je ne vois pas pourquoi on maintiendrait une obligation fictive de continuer les 3 ans.
Mais pour autant, l'enseignement qu'on vous demande de dispenser ne vous paraît pas adapté?
Alors, je ne dis pas qu'il me paraît adapté, je dis que je me pose des questions, honnêtement. Et je crois qu'il y a un débat parmi l'inspection générale des lettres, dans les inspections de lettres aussi. Enfin, il y a des débats qui n'apparaissent peut-être pas au grand jour, mais on débat actuellement de savoir effectivement qu'est-ce que c'est cet enseignement de la langue. Est-ce qu'il faut effectivement un vernis, car à la fin de la troisième, les élèves n'ont pas des compétences extraordinaires quand même en latin. Est-ce qu'il faut quand même ce vernis? De quel ordre? De quelle quantité? Quand je dis un vernis, c'est une initiation à la langue. J'ai tort de dire vernis, parce que justement, je n'aime pas ce mot. Est-ce qu'il faut donc jusqu'où pousser cette initiation à la langue pour qu'ensuite ils puissent continuer? Alors, sur ce que vous dites sur les choix en lycée, oui et non. Je veux dire que je connais quand même peu, il y en a quelques-uns, sûrement certains pas courts, mais peu d'élèves qui choisissent lycée professionnel ou lycée général, qui regrettent de ne pas pouvoir prendre latin. Ils sont très peu. Alors peut-être que, effectivement, ça tient aussi à mon enseignement, mais pas quand même tout à fait. Très peu d'élèves, parce qu'il y a plein de choses à faire au lycée, et qu'à l'entrée au lycée, on leur dit tout de suite que ça va être très dur, très chargé, et qu'il y aura beaucoup de travail à faire. Beaucoup, avec leurs parents, sont effrayés et disent « Non, je ne prends pas latin ». Je voudrais juste dire un mot sur le fait que, sur ces fameux épis-là, moi, je m'élève tout à fait contre ce mot de vernis, justement, c'est-à-dire parce qu'on ferait un enseignement de croisement entre plusieurs disciplines, il faudrait que ce soit un vernis. Et là, vraiment, je suis scandalisée par des mots qui apparaissent ces temps derniers sur les épis, qui seraient vraiment de la bouillie pour les chats, où on ferait du n'importe quoi, parce qu'il n'y a de valable que la discipline.
Voilà. Je rappelle, enseignement pratique interdisciplinaire, voilà. Et je précise d'ailleurs qu'on avait fait une émission, il n'y a pas très longtemps, sur l'interdisciplinarité dans du grain à mot. Donc, ce n'est pas du vernis. Juste, Pascal Angèle, finalement, la question qui se pose ce soir dans ce débat, c'est aussi notamment le fait de savoir s'il faut un enseignement démocratisé des langues anciennes, c'est-à-dire qui passerait par une initiation pour tous, ou bien est-ce qu'il faut, et pourquoi pas d'ailleurs, réserver cet enseignement, alors si ce n'est à une élite, parce que je ne sais pas si c'est dans ces termes-là qu'il faut poser la question, mais enfin, en tout cas, un petit nombre qui aurait les moyens vraiment d'approfondir cet apprentissage.
Les termes démocratie ou élite, je trouve, devraient être à bannir de ce genre de débat. La question,
pourtant, simplement, ils sont très présents dans le débat sur l'école.
Oui, parce qu'on considère la nature d'une chose d'après ses conséquences. La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que c'est comme langue, le latin, et est-ce que ça permet d'apprendre un certain nombre de structures qui sont ensuite utiles dans d'autres apprentissages. Et je crois qu'il n'y a personne qui conteste ça. Maintenant, en ce qui concerne l'élitisme, bien sûr, le fait d'avoir une BMW ou une autre voiture coûtant de l'argent, c'est sans doute élitiste. Le fait de porter tel ou tel habit, comme autrefois dans les cours de récréation, ou le fait d'avoir telle ou telle sorte de blouson était très désirable pour certains élèves et manifester leur origine sociale, ça c'est élitiste. Mais en quoi est-ce que la langue elle-même est élitiste? Elle n'est élitiste que parce qu'effectivement, on voudrait que seules certaines classes, il n'y a aucune raison de supposer qu'ils puissent pas y avoir cet accès. Alors, je suis complètement opposé à la position d'un certain nombre, alors je ne sais pas s'ils sont des pseudos ou des vrais intellectuels, intellectuels latinistes tels que Paul Venn, qui soutiennent qu'on doit limiter le latin exclusivement à des instituts spécialisés.
Voilà, lui, il dit qu'il faut le supprimer au collège.
Bien sûr, nous avons tous appris le latin comme une sorte d'huile de ricin qu'on nous a donnée. Ce n'était pas souvent très drôle, comme vous le disiez. Mais en même temps, il se trouve qu'on s'en souvient. Et donc, même si j'avoue n'avoir jamais, pour ma part, appris le latin au sens où j'aurais été capable de vraiment lire Tacite dans le texte, comme le faisaient certains de mes camarades, je garde. Alors, est-ce que c'est un vernis? Non, c'est pas un vernis. Je garde un certain nombre de structures et je vois pas du tout pourquoi ça ne pourrait pas être accessible à tous. Alors, appelez ça démocratisation, d'accord, mais surtout n'appelez pas élitisme le fait qu'on veuille apprendre telle ou telle langue.
Philippe Sibois, ce débat qu'on a ce soir, c'est un débat qui est assez neuf, ou bien le latin et le grec ancien ont toujours eu du mal à trouver leur place dans le cadre d'un enseignement démocratisé, c'est-à-dire en gros depuis le début du XXe siècle?
C'est surtout à la fin du XIXe, il y a eu une grande querelle pour savoir s'il fallait maintenir le latin pour tout le monde. Et il y a eu un débat parlementaire présidé par M. Ribaud qui a pondu un rapport gigantesque, très intéressant, et qui montre bien qu'à l'époque, ils ont trouvé un compromis. C'est-à-dire l'idée qu'il fallait évidemment démocratiser la situation, qu'il fallait offrir ce qu'il y avait de bon à tout le monde, mais laisser à ceux qui le voulaient des possibilités aussi d'avoir un parcours d'excellence avec les langues classiques. Bon, ce compromis qui a créé les sections A, B, C et D que nous connaissons tous, il a tenu un siècle. Je pense qu'aujourd'hui, il faut un nouveau compromis, c'est-à-dire à la fois accepter qu'il y ait une démocratisation et que le latin, dans ce qu'il a de très intéressant, soit offert à tout le monde, en français, à mon avis, et ça, je rejoins, c'est quelque chose de très positif, mais en même temps, il faut aussi créer une filière d'excellence. Le compromis ne tiendra que s'il y a une filière d'excellence créée au lycée. Et actuellement,
vous plaidez pour la formation d'une première génération d'enseignants ELECLA. Ça voudrait dire quoi, ELECLA? E-L-E-C-L-A.
Eh bien, éléments culturels et linguistiques des langues anciennes. Ça, il faut former les nouveaux profs qui passent le CAPES de lettres modernes, je dis bien pas lettres classiques, de lettres option lettres modernes, pour que leur faire découvrir... en profondeur et pas simplement en surface, il y en a beaucoup qui n'ont jamais fait de latin. Et ils se sentent complexés. Ils ne sont pas comme vous. Ils se sentent complexés du fait de ne pas avoir fait du latin.
Alors, je le suis un peu quand même, moi.
Ils sont dans le milieu éducatif.
Je ne revendique pas, en tout cas, le fait de ne pas avoir fait de latin. J'en suis pas fier. Particulièrement Florence Castinco. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de compromis?
Alors, ça serait quelque chose à réfléchir et à mettre en place sûrement, mais après, c'est peut-être difficile. Je trouve que la réforme de la ministre, là, est effectivement un compromis tout à fait acceptable. Pas parfait, bien entendu, encore une fois, comme je le disais, mais tout à fait acceptable parce que ce que la ministre propose pour sa réforme, c'est de s'appuyer pour améliorer la situation dans le collège. Et je crois que beaucoup d'enseignants actuellement et beaucoup d'élèves souffrent de ce collège qui ne les fait pas assez bien réussir, qui ne permet pas assez à tout le monde de réussir. C'est quand même ça, l'urgence de la situation. Et la ministre propose notamment deux leviers qui sont les enseignements pratiques interdisciplinaires et l'aide personnalisée. On n'en a pas parlé parce que ce n'est pas notre sujet ce soir. Mais je veux dire que si elle propose ces remaniements concernant les lettres classiques en particulier, les langues et cultures de l'Antiquité, c'est parce que par ailleurs, ça fait partie d'un ensemble où on investit beaucoup plus sur l'aide aux élèves. Et alors là, on parle du latin ce soir, c'est très bien. Mais je veux dire que, et ce n'est pas du misérabilisme de dire que dans nos classes, il y a des élèves pour qui ce n'est pas la question du latin ou pas du latin. C'est la question de, je suis en perdition à l'école et c'est la faute de personne, mais probablement d'un système qui n'est pas, qui ne leur correspond pas, qui n'est pas adapté, je suis en perdition. Et qu'est-ce qu'on va faire pour que mes talents qui sont cachés, qui sont là, et je laisserai dire à personne, comme je l'ai entendu cette semaine, à chacun selon ses moyens. C'est faux. On ne sait pas à l'entrée en sixième quels sont les moyens d'un élève. On le saura éventuellement en troisième, mais pas en sixième. Il a droit à toutes ses chances pour développer les moyens qu'il a en lui et qu'on ne connaît pas, ni lui, ni nous. Alors, la réforme met le paquet sur cette chose-là, plus que sur le latin, c'est vrai. Et je trouve que c'est socialement juste.
François Martin, c'est important quand même ce que dit Florence Castinco, c'est-à-dire de se dire, finalement, il y a des problèmes d'inégalité scolaire, qui sont peut-être particulièrement flagrantes au collège, que ça suppose de réformer la façon dont la pédagogie se fait, et qu'il faut bien que les langues anciennes prennent leur part aussi dans cette façon d'évoluer. Peut-être que quand on vous écoute, on peut se dire que voilà, vous voudriez que l'enseignement des langues anciennes reste tel qu'il est et échappe un petit peu à ce qui est de l'ordre de ces changements d'apprentissage.
Pas du tout, je vous invite à relire nos propositions qui sont sur le site de la CNARELA, puisque nous avons fait des propositions justement au sujet de l'EPI et d'un enseignement de complément. Donc il faut revoir tout ça sérieusement. Et c'est faux, madame, vous avez ouvert la parenthèse de l'aide individualisée. Faire de l'aide individualisée en classe entière, c'est pas parce que la ministre va rajouter une heure, d'autant plus qu'elle est prise sur les horaires disciplinaires. Donc je sais qu'au cahier pédagogique, vous avez, c'est un gros mot la discipline, c'est un gros mot la grammaire, mais quand même, il faut pas dire n'importe quoi. Ensuite,
juste François Martin, qu'on comprenne, parce que du coup, vous nous dites, voilà, il y a des choses qu'on propose, mais sur l'enseignement interdisciplinaire, comment est-ce que vous verriez l'enseignement des langues anciennes s'insérer dans cet enseignement interdisciplinaire. Est-ce que c'est quelque chose donc auquel vous n'êtes pas hostile, en tout cas, si je comprends
bien.
Nous,
ce qu'on avait proposé pour l'enseignement interdisciplinaire, c'était qu'il soit proposé en cinquième et qu'il ne soit pas dilué sur trois années, et justement qu'il soit proposé à tous les élèves qui en font la demande, en plus d'un enseignement de complément qui restait à deux heures, trois heures, trois heures. Donc c'est ça la chose. Je voudrais revenir quand même sur le grec. Hein. Oui. On dit qu'il est minoritaire, mais il est minoritaire pas du tout du fait des professeurs, hein, parce qu'on parle surtout du latin, mais le grec est encore enseigné dans une moitié d'établissements, on va dire, et c'est bien dommage parce que beaucoup de professeurs de lettres classiques se battent pour l'ouvrir. Or, on n'a pas les moyens. Et c'est le gros problème de cette réforme, puisqu'il y a des choses intéressantes dans cette réforme, or, il n'y a aucun moyen. Les EPI, je rappelle, ils sont pris sur les heures de cours, les heures disciplinaires. On ne le fait pas en plus, alors qu'il y a déjà beaucoup de gens qui travaillent en interdisciplinarité, et en particulier les professeurs de lettres classiques. Or, on le fait en plus. Là, on nous propose de retrancher sur les horaires de français ou de maths ou d'histoire. C'est pas normal. Et là où je suis pas d'accord sur l'élitisme, ce que vous avez proposé, monsieur Cibois, c'est scandaleux. Et madame Castinco, ce que vous avez proposé aussi à la fin de votre article dans les cahiers pédagogiques, c'est scandaleux. Dire pourquoi ne plutôt pas considérer que la pratique des langues anciennes en tant que langue est et restera l'apanage du petit nombre, comme les études musicales par exemple. Non. Là, on parle d'élitisme. Et l'élitisme, on n'en a jamais parlé dans cette réforme. Et quelque chose où il y a de l'élitisme, c'est les sections internationales où les enfants apprennent l'anglais ou le chinois, etc. et font des maths, l'histoire en chinois. La ministre a inauguré un collège international à Noisy-le-Grand à la rentrée dans l'académie de Créteil. On n'en entend pas parler alors qu'il y a un véritable élitisme là-dedans. Et ça, c'est pas du tout remis en question.
Pascal Angèle.
Je voudrais attirer l'attention des ministres et des hommes politiques qui s'intéressent au latin aujourd'hui sur le fait qu'il n'y a pas exactement le même genre de problème dans les autres pays. En Italie, l'enseignement du latin marche très bien dans le liceo classico. En Allemagne, dans le gymnasium, c'est encore un enseignement de base. Aux États-Unis, l'enseignement du latin et du grec remonte. Peut-être pour des raisons, évidemment, qui sont liées au fait que les parents veulent mettre leurs enfants dans tel ou tel établissement. Mais enfin, en tout cas, on n'a pas ce genre de discussion.
Et comment vous expliquez alors qu'on ait ce genre de discussion en France et pas dans ces pays-là ?
Parce qu'on est dans un pays dans lequel, je vous rappelle qu'il y a de ça quelques années, nous avons eu un président de la République qui a dit qu'il ne fallait pas lire la Princesse de Clèves. Alors si effectivement, ce n'est pas démocratique de lire la Princesse de Clèves, alors ce n'est pas démocratique de dire « dimisit inuitus inuitam » aussi, voilà.
Si vous pouvez me le traduire, alors pour moi qui n'ai pas fait de latin.
Il la renvoya malgré lui, malgré elle, ce qui d'ailleurs ne se dit pas trop mal en français non plus, mais c'est très bon en latin. Et c'est certain que si on nous explique que c'est de l'élitisme que d'utiliser ce genre de formule, bon ben, il n'y a plus moyen vraiment de discuter.
Et
on a atteint quelquefois ce niveau-là dans les discussions.
C'est moi qui vais prêcher pour l'élitisme alors. Parce que pour qu'il y ait un compromis, il faut qu'il y ait à la fois quelque chose qui soit offert à tous, mais la possibilité aussi pour certains de faire un enseignement qui soit, les sections S mathématiques, si ce n'est pas de l'élitisme, c'est des élites qui iront dans les classes préparatoires aux grandes écoles et les écoles scientifiques. Ben, je pense qu'il faut qu'il y ait aussi une préparation analogue, ce que j'appellerais une section S lettres, après tout, comme le A' auparavant, hein, que certains ont connu, et qui joignent en même temps, pour les meilleurs, les lettres et les mathématiques.
Alors, l'école doit-elle former des élites ? Je vous précise que ce sera le sujet de notre discussion lundi prochain dans Du Grand Amour. On n'a pas encore exactement les noms des invités, donc je préfère pas trop m'avancer. Mais enfin, en tout cas, c'est la question qu'on pose. On est quasiment à la fin de cette émission. Je voudrais vous faire écouter alors un petit extrait qu'on a trouvé sur Internet de jeunes qui semblent s'amuser avec le latin. C'est finalement peut-être pour contredire un petit peu votre tribune, Pascal Angèle, quand vous disiez sur YouTube, sur Facebook, on parle pas. Non, sur Facebook et sur Twitter, on parle pas latin. Sur YouTube, oui, on a trouvé, on entend même des élèves qui chantent en latin.
Tertia declinatio, genus masculinum feminumque, unus, duo, res, quatuor.
Rex, rex, regem, regis, regi, regie, reges, 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 regum, regibus, regibus, param.
Voilà, une leçon de déclinaison parmi d'autres qu'on a trouvé sur YouTube. Ça avait été posté en 2009, ça date déjà un petit peu. C'était sur l'air de Mission Impossible. Vous n'allez quand même pas jusque-là dans votre façon d'enseigner, Florence Castinco.
Mais on traque, comment dire, on traque le latin dans toute son actualité. On peut aussi lire un petit tweet du pape, effectivement, qui tweet tous les jours en latin. Donc les élèves sont très étonnés de dire « Tiens, le pape tweet en latin ». Donc on peut aussi glaner du latin un peu partout et du latin vivant dans la vie courante.
D'un mot, François Martin, pour conclure?
Oh, une phrase de Platon, bouleum membradeos epitelaide takeos tadoxanta, délibère avec lenteur, mais accomplis ce que tu as décidé avec rapidité, et je crois que la première partie de la phrase n'a pas été appliquée par le ministère.
Voilà, et on vient de me confirmer les invités de lundi, ce sera Alain Finkielkraut et Philippe Mérieux qui répondront donc à cette question. Laquelle déjà? L'école doit-elle former des élites? Voyez, j'ai eu un trou d'un seul coup. Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir participé à cette passionnante discussion. François Martin, Pascal Angèle, Florence Castinco et Philippe Cibois. Alors je parlais de lundi, mais attention, il y a quand même une émission demain à partir toujours de 8h20. Émission consacrée à la situation au Burundi. S'agit-il du maillon faible de l'équilibre post-Rwanda? C'est la question que nous poserons à nos invités. Puis je vous rappelle, la ministre de l'Éducation nationale sera en direct demain matin dans les matins de Marc Boinchet. Ce sera à partir de 8h20.